Matière à penser, Patrick Boucheron.
Bonsoir, quatrième émission consacrée à préhistoire et modernité. Alors, on progresse parce que avant-hier nous étions encore dans le paléolithique supérieur, hier au néolithique avec Jean-Paul Demoule, et maintenant on va commencer progressivement à entrer dans la proto-histoire. Mais est-ce que c'est toujours de la préhistoire? C'est la question que je voudrais poser à Anne Leurf. Bonsoir Anne Leurf.
Bonsoir Patrick Boucheron.
Vous êtes professeur de proto-histoire européenne à l'Université de Lille. Vous êtes vice-présidente du Conseil national de recherche archéologique. Et vous avez publié en 2016 chez Belin un beau et grand livre, Préhistoire d'Europe, de Néandertal à Vercingétorix. On a eu tort de ne pas mettre de S à préhistoire et modernité. On aurait dû?
On aurait pu. Effectivement, mettre préhistoire et modernité, le S de préhistoire permettant finalement de sortir cette longue période qui est souvent perçue de manière assez floue, et avec le S de montrer un petit peu sa pluralité, sa diversité.
C'était quand même un coup d'éclat et presque un coup de force pour vous, Anne Leurf, de prendre toutes les préhistoires d'Europe dans une vaste synthèse intégrant la proto-histoire, et pourtant j'ai l'impression que dans vos écrits vous militez plutôt pour sinon une séparation, du moins une réintégration de la proto-histoire à l'histoire. Finalement ça vous va pas tant que ça, cette conception de la préhistoire.
La conception de la préhistoire telle que je la vois, ou le fait de militer finalement pour rapprocher une proto-histoire de l'histoire, ou plutôt tout simplement pour militer en faveur d'une préhistoire et d'une proto-histoire qui appartiennent pleinement à l'histoire, finalement c'est ça l'enjeu. C'est une manière de dire que nous ne faisons pas l'histoire de l'humanité uniquement avec des textes, puisque finalement le nœud est là d'une certaine manière.
Dans un livre dont on va parler, toujours paru chez Belin, mais l'année dernière, Par les armes, le jour où l'homme inventa la guerre, vous citez un beau passage de Lucien Febvre qui dit « L'histoire se fait avec des textes quand il y en a ».
C'est ça, l'histoire se fait avec des textes quand il y en a. C'est une phrase qui m'accompagne depuis mes premiers travaux universitaires, parce qu'en plus il est question de métallurgie dans cette phrase, et je suis métallurgiste, et c'est vrai que j'ai trouvé intéressant de pouvoir avoir cette phrase comme fil conducteur d'une pensée, d'une réflexion, surtout d'un grand homme comme ça, ça aide, ça pousse et ça donne des devoirs, de pouvoir comme ça avoir cette phrase qui dit que oui, on peut avoir des textes et on doit. L'historien doit utiliser toutes les sources qui sont à sa disposition. Et donc, s'il n'y a pas de texte, eh bien, il n'y a pas de texte. On fait avec ce qu'il y a.
On fait avec ce qu'il y a. Et voilà. Pour vous, ce qu'il y a, en tant qu'archéo-métallurgiste, ce sont des dépôts métallurgiques que vous avez commencé, des armes, vous êtes venu progressivement aux armes, on va en parler. Mais en tout cas, voilà, des dépôts métallurgiques, d'abord à Bibracte, ensuite dans la vallée du Pô. C'est ça que vous avez commencé à fouiller, Anne Leurf?
Oui, alors j'ai commencé à fouiller, ma première fouille à Bibracte était effectivement un atelier de métallurgiste à l'extérieur d'une des portes du rempart de cette capitale des Éduins, la porte du Rebout, où il y avait à la fois des objets, mais des objets en cours de fabrication, et puis des lieux où il y avait des traces de cette activité métallurgiste.
Et là, vous faisiez dans la fibule.
Et là, je faisais dans la fibule.
C'est-à-dire
le bijou. C'est un bijou, c'est l'ancêtre de l'épingle à nourrice, d'une certaine manière, parce qu'on connaissait à la fois les tissus, la couture, mais la fibule, comme une broche, d'une certaine manière aussi, ça permet à la fois de plier un vêtement tout en le décorant.
La pratique archéologique, pour vous, le sens du terrain, le rapport au récit, comment vous conciliez tout ça dans votre recherche et dans votre écriture? Parce que c'est de cela dont on aura à parler aussi, c'est de la mise en intrigue de tout ça.
Alors le terrain, pour l'archéologue aujourd'hui, il est devenu pluriel, c'est-à-dire que le terrain, le chantier de fouilles, qui est le terrain premier du lieu où l'archéologue va chercher sa documentation avec laquelle il travaille, c'est un lieu emblématique, et avec la diversification finalement des spécialités, la diversification du métier même d'archéologue, il n'y a plus un terrain mais des terrains. Il y a le chantier de fouilles classique, traditionnel, puis il y a de nombreux spécialistes qui interviennent désormais sur ce terrain. Et ce qui fait que, à côté de la fouille classique, on a tous ces terrains nouveaux qui sont les laboratoires, ou d'une certaine manière la documentation. Parfois on fouille, on prend un morceau tout entier du terrain et on fouille.
Oui, donc ça c'est l'archéogéologie.
C'est une forme d'archéologie. Quand on peut pas fouiller sur le terrain pour différentes raisons, on va prélever en motte une petite partie ou un ensemble, ou des ensembles assez conséquents, et puis on va se mettre dans des conditions où on va pouvoir les fouiller beaucoup plus finement que si on était à l'extérieur. Et puis il y a des terrains où on va acquérir de la connaissance, de la donnée primaire, en laboratoire directement, sous le microscope, sous la binoculaire. Et ce sont aujourd'hui tous les spécialistes des sciences des matériaux, des sciences de la vie. Alors, les sciences de la Terre, ils interviennent beaucoup quand même sur le terrain lui-même, mais les sciences de la vie, les palynologues, les carpologues, ont tout un travail en laboratoire directement, qui vient en complément d'une certaine manière de la fouille archéologique elle-même.
Et ça, il faut le rappeler pour nos auditeurs qui peuvent confondre, s'ils ne connaissent pas l'archéologie, ben justement, la fouille et le dégagement. On n'est pas dans une archéologie monumentale qui cherche nécessairement des structures. On va trouver du savoir, au fond. Et ce savoir, il est interdisciplinaire par définition, mais dans vos écrits, on voit que le rapport au laboratoire... Et parfois difficile. Enfin, en tout cas, vous dites que c'est pas, ça se fait pas tout seul, qu'il y a une, sinon un conflit, du moins, voilà, une tension entre l'archéologue et la science exacte.
Alors, c'est tout le problème et la richesse finalement de l'interdisciplinarité, c'est-à-dire que ce sont des pratiques et des savoirs qui sont complémentaires, qui doivent dialoguer. L'archéologue est un historien de la matérialité. Et donc il va chercher à mettre en récit des vies qui ne sont plus là. Et parfois le scientifique va s'attacher à des données chiffrées, précises, et parfois oublier la dimension peut-être humaine qu'il y a derrière les chiffres. Et donc tout l'enjeu et tout l'intérêt, c'est d'arriver à croiser les deux approches pour avoir le récit à la fois le plus précis, le plus chiffré possible et le plus humain possible.
Oui, le plus humain, parce que vous faites le lien entre ces sciences exactes d'observation naturelle et puis aussi la conversation avec l'histoire, l'ethnologie, la sociologie, avec la discipline historique d'une manière générale. Et c'est là où je voudrais vous interroger aussi encore sur cette question de la profondeur du temps. Parce que on va parler tout à l'heure de proto-histoire, donc on sera au deuxième millénaire avant Jésus-Christ, non ?
Non, non, non. La proto-histoire commence au Néolithique.
Ah, alors expliquez-nous ça.
Avec le Néolithique.
Expliquez-nous ça.
Toute la question, c'est de savoir, lorsque le dernier ouvrage de Jacques Le Goff, faut-il couper l'histoire en tranches ? Finalement, c'est la question de savoir où on coupe. Et de quelle épaisseur sont les tranches. Et quand on est historien, finalement, entre une période ou une autre, c'est où est-on dans la rupture et où poursuit-on dans la continuité. Donc, tout l'enjeu est de savoir à quel moment on change, effectivement, dans l'histoire humaine, de données ou d'éléments qui permettent, effectivement, de mesurer une rupture. Et si on regarde l'histoire, le temps long, on évoquait le temps long, Patrick Boucheron, cette longue durée, on a évoqué le paléolithique. Quand est-ce que il se passe quelque chose de très fort qui marque une rupture? Et cette rupture la plus forte pour les périodes anciennes se passe entre la fin du paléolithique et le début du néolithique. À partir du moment où l'homme invente l'agriculture, en Europe, c'est se sédentarise. Un rapport différent à l'espace, au lieu d'habitation, au lieu où il enterre ses morts, au lieu où il rend un culte, on a là une rupture majeure qui est d'ordre économique, mais qui est beaucoup plus importante que ça.
Qui est la rupture majeure dont on parlait hier avec Jean-Paul Demoule, mais je pensais que vous insisteriez davantage sur les âges métalliques, l'âge du fer, l'âge du bronze, où là aussi il y a une sorte de fantasme ou d'idéal de continuité dans votre livre Par les armes. À un moment, décrivez une vaisselle de l'âge du bronze et l'idée que au fond là on est presque contemporain de ces usages, et les usages domestiques, les usages guerriers, c'est de ça dont on doit parler aussi.
Alors, il y a le néolithique marque une rupture extrêmement forte, et par rapport aux terminologies, il me semble que c'est important de la placer effectivement, cette terminologie, au début du néolithique, le terme de proto-histoire correspondant au début du néolithique. Ça ne veut pas dire qu'après, il n'y a pas des temps forts,
bien sûr,
qui marquent effectivement des césures, des coupures. Les âges des métaux, et en particulier effectivement l'âge du bronze, connaissent des temps extrêmement, de rupture extrêmement forts, en particulier, on va dire, entre eux, alors, le bronze ancien et le bronze moyen dans le vocabulaire des archéologues, c'est-à-dire que entre le début du deuxième millénaire et 1600 à peu près avant notre ère, il se passe quelque chose qui est effectivement l'invention d'un objet clé qui est l'épée, et avec et autour tout un ensemble qui marque effectivement une rupture dans l'histoire des sociétés de l'âge du bronze,
voilà,
en Europe.
Voilà, donc là on sera tout à l'heure effectivement entre 1700 et 1600, on va aller chercher des épées, mais avant encore une question, Anne-Leur, justement, si votre présent d'archéo-métallurgiste, votre terrain se situe à ce moment-là, la caverne, l'âge paléolithique, c'est un passé pour vous qui est tellement profond. C'est là, pour le coup, vous désirez quand même, vous l'écrivez à un moment dans Par les armes, sortir de la caverne.
Oui, alors sortir de la caverne, ça rejoint l'idée qu'on évoquait tout à l'heure du pluriel après l'histoire. En général, les gens qui ne sont pas spécialistes de ces périodes, qu'on n'apprend pas à l'école, donc c'est normal finalement que ça reste une idée parfois un petit peu floue, imagine ce temps de la préhistoire comme un temps qui commence effectivement dans la caverne, pour faire très court, et qui se finit du côté de l'arrivée des Romains et de ce héros Vercingétorix. Et entre les deux, il y a finalement un flou. Et l'idée de sortir de la caverne, c'est de montrer qu'il y a des moments que l'on connaît finalement relativement bien, qui sont bien identifiés, avec une documentation qui nous informe sur ces sociétés et qui nous permet effectivement, avec un jeu de mots d'une certaine manière, de sortir de la caverne et de cette idée du flou.
Et de s'extraire effectivement de ces fameux sombres abîmes du temps, Anne Lehrff. Je me souviens vous avoir entendu décrire avec émotion la manière dont la grotte Chauvet vous avait littéralement privé de parole.
Oui, c'est vrai. J'ai eu la chance extrême de pouvoir visiter la grotte Chauvet. Et c'est vrai que ça a été une expérience extrêmement importante et troublante, parce qu'on arrive et on est spécialiste d'archéologie, et donc on a vu des images, et tout d'un coup on est en situation.
L'accès est difficile, hein.
L'accès est difficile, il y a une marche, et puis ensuite il y a une descente où on est accroché en rappel, on rentre dans un véritable coffre-fort, on est habillé, on est équipé, et on descend véritablement dans cette caverne, qui est comme une cathédrale, c'est-à-dire les plafonds sont absolument immenses, et on se sent ridiculement petit tout d'un coup, c'est-à-dire physiquement et à l'échelle du temps, c'est-à-dire qu'on n'est plus rien, ce qui nous entoure est absolument immense et magnifique. Et c'est vrai que c'est une expérience, un cheminement à la fois dans l'espace et dans le temps, dont moi je suis ressortie, qui suis plutôt bavarde, muette pour quelques jours, ce qui n'est pas rien.
Alors justement, comment faire parler, une fois qu'on est sorti de la caverne, de cette émotion aussi, de l'immense profondeur du temps, les vestiges. Commençons par ça, un dépôt métallique. Le fait assez singulier que les armes, par exemple, qu'on pourrait refondre, on ne les fond pas, on s'en sépare, mais pour les laisser là, c'est toujours assez mystérieux encore aujourd'hui, la fonction réelle qu'on dit rituelle ou liturgique, parce que finalement on n'en sait rien, de ces dépôts métalliques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, parce que tout part de là, hein, de votre
recherche. Enfin, tout part de là, oui, parce qu'effectivement, alors il y a deux types de dépôts volontaires de ces armes et des objets métalliques en général. Il y a un type de dépôt qui pose pas tellement de difficultés, parce que finalement, c'est quelque chose dont on a l'habitude. Ce sont les objets qui sont déposés dans des tombes. Et les objets déposés dans des tombes, ça correspond dans nos mentalités à un acte finalement qui est un dernier hommage aux morts. Et donc, on peut comprendre qu'on sacrifie littéralement des objets pour ce défunt. Ce qui est beaucoup plus difficile à comprendre, ce sont effectivement ces ensembles métalliques de l'âge du bronze qui contiennent très souvent des armes, mais pas seulement et pas exclusivement, ou alors uniquement des armes. Par exemple, le dépôt des cuirasses de Marmès que j'ai étudié, ce ne sont que des cuirasses, ou des dépôts avec que des casques. Alors, comme à Marmès, les cuirasses sont entières et rassemblées. On a l'idée, effectivement, d'un geste volontaire. On ne comprend pas toujours pourquoi.
Mais elles peuvent même être compactées.
C'est ça, compactées, empilées les unes avec les autres. Les casques du dépôt de Bernières, d'Ailly, en Normandie, il y avait 9 casques et ils étaient effectivement empilés 3 par 3, réunis. Les casques étant entiers. Donc le geste est assez étonnant. Mais les objets sont effectivement entiers. On pense assez facilement à un acte cultuel, liturgique, en tout cas en rapport avec une croyance. Parfois même, ces ensembles sont composés d'objets, de centaines d'objets qui sont cassés. Et là, pour l'Européen contemporain, c'est effectivement un geste qui paraît assez étrange. Et on a très, très longtemps pensé que ces assemblages d'objets étaient des assemblages aléatoires, qui n'avaient pas de sens. Et plus on les regarde, et plus on s'aperçoit qu'il y a des associations d'objets qui ont des cohérences, il y a des poids d'objets qui sont toujours les mêmes, et on se dit non, ce n'est pas un acte gratuit. En plus, c'est une pratique qui se fait à des milliers de kilomètres dans toute l'Europe, et pour des milliers d'ensembles. Donc c'est pas le fruit du hasard, c'est pas un bronzier qui bêtement aurait oublié son stock de métal dans un coin et qui reviendrait le chercher plus tard. Ça correspond à un phénomène massif et qui a du sens. Mais comme on n'a pas le mode d'emploi écrit, oui, on cherche.
On cherche, parce que ça c'est évidemment la question de l'archéologue. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? Au fond, il y a peu de dépôts accidentels quand même. Il y a des pratiques derrière la conservation. Alors, essayons de réfléchir ensemble, Anne Le Herf. On rend à la terre ce qu'on lui a donné. Il y a cette idée, parce que voilà, vous en parlez d'ailleurs dans Par les armes, le jour où l'homme inventa la guerre. On parlera de ce jour. Évidemment, on peut pas ne pas penser à la légende arthurienne, cette épée qu'on va ficher dans le rocher, si tant est qu'on puisse le faire physiquement. Mais enfin, en tout cas, le geste symbolique, c'est quand même d'aller rendre aux entrailles de la terre ce qu'on lui a pris.
Et Patrick Boucheron, à l'eau. Il y a également des légendes par rapport au monde marin, au lac, et une partie des dépôts ont un lien très fort avec les rivières et la mer. Donc il y a ces deux éléments. Il y a à la fois la terre, il y a l'eau, pour un artisanat qui lui est un artisanat du feu.
Oui. Et cet artisanat du feu, vous tentez de le reconstituer. Donc on l'a dit, vous travaillez en archéométallurgie. Donc ça veut dire que ce que vous cherchez d'abord, c'est la technique du bronzier. Vous venez de parler du bronzier. Au fond, votre rêve scientifique, ça a d'abord été longtemps, c'est peut-être encore aujourd'hui, d'avoir l'ensemble de la chaîne. Parce que c'est comme ça qu'on appelle.
Oui, c'est tout à fait. C'est la chaîne opératoire de fabrication. C'est un concept développé en France par André Leroy-Gourhan, non pas du tout pour la métallurgie, mais plutôt pour le lithique et pour des périodes plus anciennes, préhistorien et ethnologue. C'est un outil pour essayer de comprendre les différentes phases et puis ce qu'il reste matériellement à chacune des phases. Ce qui permet d'avoir une visualisation, en quelque sorte, finalement, de ces fabrications. Et quand on est archéométallurgiste, eh bien, on essaie, à partir de traces, de vestiges, d'objets, qui sont le plus souvent des objets finis, mais pas que. On peut avoir des lingots, on peut avoir des objets en cours de fabrication. Essayer de comprendre les attentions, les intentions du bronzier, ses gestes, ses choix des moments précis de la chaîne opératoire. Et puis, il y a lui, et il y a l'utilisateur.
Et donc c'est ça.
Ça, c'est ce dialogue aussi. C'est-à-dire que est-ce que le bronzier travaille tout seul et l'utilisateur n'est pas du tout dans le champ? Ou au contraire, on est là dans le cas d'un dialogue entre celui qui a des besoins et celui qui est capable d'y répondre par son savoir-faire.
Ce que vous décrivez très bien dans ce livre, Par les armes, le jour où l'homme inventa la guerre, c'est que vous cherchez la chaîne opératoire, c'est votre métier, vous essayez de vous mettre à la place du bronzier, vous avez des armes, mais au fond, c'est d'abord le geste du bronzier qui les fabrique qui vous intéresse, et un jour, il y a comme une conversion de regard, pas devant une épée, mais devant
une cuirasse.
Devant une cuirasse, et vous commencez à voir, littéralement à voir, l'homme qui a pu la porter, se battre, prendre des coups, faire la guerre.
Oui, effectivement, j'ai pas du tout au départ choisi un sujet sur la guerre. Moi, ce qui m'intéressait, vous avez évoqué tout à l'heure Bibracte et les fibules, hein, et c'est vrai que moi, ce qui m'intéressait, c'était l'artisan. Et j'ai très vite d'ailleurs travaillé avec un artisan bronzier, compagnon du devoir, donc qui faisait et dont des fibules. C'est la première fabrication que nous avons faite ensemble. Et sauf que, à force de voir dans les collections des musées et sur les chantiers, finalement, et dans ces dépôts des armes, il y a un moment donné où l'archéologue se dit « oui, je cherche à comprendre une chaîne opératoire », mais à un moment donné, il va quand même falloir se poser la question de savoir l'usage de ces objets. Et on était à ce moment-là, pas dans un moment où on s'interrogeait en archéologie beaucoup sur la guerre. C'est une thématique qui est entrée extrêmement tard dans les problématiques des archéologues, et donc je ne fais pas exception finalement à cela.
France Culture, Matière à penser, Patrick Boucheron.
Toujours en compagnie de Anne Lerf, vous êtes venue avec Blade Runner.
Oui, je suis venue avec Blade Runner. C'est un clin d'œil, tous les archéologues rêvent, ou en tout cas utilisent le nom d'Indiana Jones à un moment ou à un autre de leur conférence ou de leur discours. Blade Runner a été fait un an après le premier Indiana Jones, et c'est à nouveau Harrison Ford qui tient le rôle, dans un rôle qui est un peu un anti-Indiana Jones, puisque au lieu d'être un chercheur dans le passé, il est au contraire dans le futur, et il se trouve que ce futur, en fait, est 2019, c'est-à-dire aujourd'hui pour nous.
C'est-à-dire le rapport entre la préhistoire et la modernité qui nous occupe toute cette semaine dans Matière à penser. Alors, c'est une musique préhistorique là qu'on entend. C'est l'idée qu'on s'en fait, non?
C'est aussi un peu le choix de cette chanson. Dans toutes les chansons du film, effectivement, la chanson de Rachel se résume finalement à la voix. Et dans l'histoire de l'humanité, il est très probable que le premier instrument de musique ait été la voix. C'est aujourd'hui toujours un instrument de musique. Et les instruments de musique sont apparus très tôt. Donc on sent que c'est un besoin humain extrêmement fort et très précoce, y compris durant les préhistoires.
Alors, les préhistoires, donc là, à partir du néolithique, on rentre dans une autre histoire, en particulier celle de la domination masculine, justement, puisque on entendait la chanson de Rachel, lorsqu'on a en tête les les peintures d'histoire de Paul Jamin, par exemple, ben on a l'impression que la violence, c'est celle du temps des haches polies, du temps des cavernes, du paléolithique. Or, aujourd'hui, on va en parler, justement, votre idée, c'est, avec d'autres, de considérer que, justement, non seulement le néolithique est le moment où les hommes commencent à se faire la guerre, mais que, justement, l'âge du bronze, et en particulier cette période que vous connaissez si bien, les années 1700, 1600 avant notre ère évidemment, eh bien sont à un moment, on va dire, de surarmement de l'Europe.
Tout à fait. Alors, en fait, ce qui se passe entre 1700 et 1600, c'est un acte finalement totalement inédit dans l'histoire de l'Europe. C'est l'invention d'un objet qui ne peut servir qu'à attaquer, à blesser, à tuer l'autre, à savoir l'épée.
Archéologiquement, c'est quoi une épée? Est-ce que vous pouvez nous la décrire, en fait?
Alors,
une épée de l'âge du bronze.
Alors, il y a plusieurs types d'épées. Il y a toute une typologie d'épées.
Oui, j'imagine.
Voilà. Mais l'épée, on est... Alors, il y a des épées au début, vers 1700, 1600 avant notre ère. On a des épées qui sont relativement courtes. Et puis
30 centimètres, c'est ça? De 30 à 90 centimètres?
À partir de 30, on peut commencer à parler d'une épée courte. Mais on est très rapidement sur des épées qui sont plus longues que ça. Avec une poignée métallique ou une poignée qui ne l'est pas. Et puis avec des formes de lames qui sont très vite, là aussi, tout à fait diversifiées pour des usages qui le sont tout autant. Et donc, l'homme invente à ce moment-là un objet, alors que jusque-là, au néolithique, on a des objets pour lesquels on peut imaginer une polyvalence. C'est-à-dire la hache, effectivement, en pierre, c'est un outil. C'est vrai qu'on peut aussi tuer quelqu'un avec, sans difficulté, mais... l'ambiguïté existe dans un monde où la violence est effectivement réelle, mais avec des objets qui ne sont pas strictement dédiés à aller faire la guerre. À partir du moment où la métallurgie des alliages cuivreux se développe, parce que l'âge du bronze c'est ça, ce sont des alliages cuivreux avec des teneurs très variables selon justement la chaîne opératoire de fabrication et les usages, on a une panoplie qui se développe et qui elle est une panoplie sans ambiguïté, qui est une panoplie guerrière. Donc dans un monde qui n'invente pas la violence ou le conflit, mais qui invente un type de guerre bien particulier.
Alors une panoplie au sens propre, puisque avec l'épée vient le fourreau, puis ensuite la cuirasse, puis le bouclier et le casque.
Alors c'est même concomitant, parce qu'en fait il existe des boucliers, par exemple en cuir, qui sont très anciens, mais on a des épées, des casques, des cuirasses, et à la fin du deuxième millénaire avant notre ère, toute cette panoplie-là en Europe est effectivement une panoplie dont il existe des exemplaires métalliques, qui sont le fruit d'un savoir-faire, si on revient à l'artisanat, absolument exceptionnel.
Et plutôt propre à l'Europe du Nord?
Qui sont propres à l'Europe du Nord et l'Europe, on va dire, jusqu'en Allemagne. La France de l'Est et du Centre-Est est également très concernée par ce type de production.
Pour avoir une idée, par exemple, en Scandinavie, on en a alors, 20 en 000, c'est ça on... Quelque chose comme ça?
Pardon?
On en a 20 000 alors, conservés
on a... Oui, c'est ça. Les Scandinaves ont effectivement fait des calculs pour essayer de voir s'ils pouvaient estimer le nombre des guerriers, le nombre des combattants. Il y a des épées en quantité, on est sur effectivement des dizaines de milliers d'exemplaires encore existants aujourd'hui, parce que justement, ils ont été déposés plutôt que d'être recyclés. C'est un des avantages aussi des dépôts, c'est qu'on aurait pu ne rien avoir.
Là, on retrouve effectivement cette question du dépôt et donc de la conservation. Mais enfin, ça donne quand même l'idée d'une géographie européenne où pour une fois, j'allais dire, la nouveauté ne vient pas du Proche-Orient.
Oui, oui.
Ça, c'est quand même une spécificité pour vous, Anne Lerf, qui enseignait la proto-histoire européenne. Là, l'épée, je ne sais pas si on doit s'en flatter, mais c'est quand même une invention européenne.
C'est une invention, ce type d'épée, pour un combat en plus, pour un type de combat qui est particulier, parce que l'épée va rapprocher les guerriers.
Oui.
On ne peut pas attaquer, sauf être à cheval, ce qui arrive en fait quasiment en même temps. C'est-à-dire qu'il y a des épées qui devaient être des épées pour des combats en face à face sans cheval. Et puis on voit l'introduction, le développement en tout cas du cheval à peu près à la même époque.
Donc, le cheval et le char, vous parlez aussi évidemment.
Alors le char qui est un petit peu plus tardif pour la guerre.
Mais cette guerre, c'est une guerre effectivement de face à face. Et ça, c'est une différence d'avec, par exemple, la guerre...
Proche-Orient.
Oui.
Au Proche-Orient, qui est effectivement une guerre d'armée, mais il y a une... Ou dans le monde grec archaïque.
La guerre hoplitique.
La guerre hoplitique, ce sont la phalange hoplitique, effectivement, ce sont les hommes les uns à côté des autres. Là, on a beaucoup plus l'impression dans l'armement que l'on a et dans les représentations que l'on a, puisqu'on a, par exemple, justement, en Scandinavie, les pictogrammes sur les parois, qui sont des représentations absolument incroyables de scènes de combattants. On est dans le duel, on est dans le face-à-face entre deux épéistes. Et ça, c'est un modèle plus individualiste, d'une certaine manière, qui est européen. Là, je ne sais pas non plus si nous devons nous en réjouir.
Et d'ailleurs, je vous poserai aussi des questions sur votre écriture, Anne Lerf, parce que, évidemment, il y a des effets de simultanéité, ou en tout cas d'écho avec des textes. Par exemple, évidemment, les grands textes de la guerre, l'Iliade, l'Odyssée, mais surtout l'Iliade. Et au fond, vous jouez moins sur la simultanéité que sur l'irruption de la nouveauté, le jour où l'on inventa la guerre. Pourquoi avez-vous scrupule à dire que, au fond, c'est aussi le temps des héros sur le plan de la mythologie?
Alors peut-être parce que je ne sais pas si j'ai des scrupules. Peut-être parce que finalement, je souhaiterais qu'on regarde l'Europe aussi parfois pour elle-même. Il doit y avoir quelque chose de ça. C'est-à-dire que on a, et ce n'est pas une critique évidemment contre le monde de la Grèce et le temps des héros qu'on regarde du côté de la Grèce, mais on a facilité d'une certaine manière à regarder vers le monde méditerranéen pour comparer. Et je pense que j'ai eu envie pour ce livre-là d'une certaine manière d'isoler, de faire une place pleine et entière, on va dire, à l'Europe pour ce qu'elle est, sans regarder, en me disant il y a déjà beaucoup à regarder, peut-être que pour cette fois et pour cet exercice-là, restons finalement dans cette Europe qui représente quand même des milliers de kilomètres.
Oui, et vous cherchez le jour où, ça c'est quelque chose qui m'étonne. À la fin vous le dites, ça pourrait être le 21 avril 1683 avant de très, oui ça pourrait, mais vous cherchez souvent à fabriquer des fausses dates, y compris d'ailleurs dans d'autres écrits, voilà. Mais pourquoi ça? Qu'est-ce qui vous attire dans le récit historique au fond? Pourquoi vous voulez faire récit d'un événement plutôt que d'une découverte? C'est pas une critique, c'est une vraie question.
Alors, je pense que l'histoire de la date, la question de la date, c'est une question... alors, c'est pas une question de frustration, mais c'est plutôt un clin d'œil. C'est parce que c'est vrai que les historiens ont souvent... voilà, il se passe tel événement en telle date. Nous, c'est vrai qu'en archéologie, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, on a parfois des années très précises. Quand on a des dendrochronologies, on arrive victorieux à savoir qu'on est en 2483 avant notre ère pour la construction de tel pieu, de telle maison sur les bords du lac en Suisse. Donc, on est très heureux. Mais on a difficilement, finalement, le jour de quelque chose. Donc, on aimerait bien aussi, de temps en temps, pouvoir la voir.
Vous aimeriez bien.
Ah oui, on aimerait
le
bien.
Jour où.
Le jour où. Ça ne suffit pas.
L'autre chose où on a inventé.
Ça ne suffit évidemment pas à faire de l'histoire. Oui, mais l'invention, ça ne suffit évidemment pas à faire de l'histoire. Mais c'est un élément qui permet peut-être aussi d'imaginer, de visualiser.
Et de rentrer en conversation.
Et de rentrer en conversation.
Avec l'historiographie,
tout
d'une
à
manière
fait.
Générale.
Tout à fait. Donc, voilà. Et puis après, le récit historique, on peut pas se contenter de chiffres d'analyse de bronze. On est loin de l'humanité, on est dans le chiffre. Et donc, évidemment, avec nos données de l'archéologie, on doit avoir l'ambition, avec tout ce que ça comporte de difficultés, parfois de caractère un petit peu aléatoire, parfois un peu risqué.
Oui.
Mais si le chercheur ne prend pas de risques, il ne fait pas son métier. Donc il faut qu'il prenne des risques en sachant qu'il les prend. Et il doit peut-être quand même...
Y compris des risques narratifs.
Y compris des risques narratifs, bien sûr. Il doit prendre tous les risques. Le chercheur doit prendre tous les risques. Je crois que ça fait partie de son métier, de sa pratique, en ayant conscience qu'il prend des risques. Le récit peut toujours être défait d'une certaine manière. C'est une proposition. Donc on propose... Et puis peut-être qu'effectivement, la prochaine étude qu'on fera remettra en cause ce que l'on a écrit. Et alors ?
Vous venez de publier, Anne Lerf, un petit que sais-je, sur l'archéologie, qui est aussi un manifeste pour cette science ouverte, humaine, mais aussi évidemment en conversation avec les autres disciplines, les sciences exactes. Alors, d'accord, on peine à trouver des événements. Il y en a un quand même. Il est arrivé quelque chose à un quadragénaire en mauvaise santé qui s'appelait Otzi, enfin qu'on a appelé Otzi.
Le pauvre, oui.
Oui, qu'est-ce qui lui est arrivé à ce garçon?
Alors, on a plusieurs scénarios. Donc, Otzi, c'est cet homme qu'on a trouvé dans un glacier entre la frontière autrichienne et la frontière italienne.
En 1991, c'est ça?
Oui, en septembre 1991. Et donc, cet homme a attiré l'attention parce que sa découverte est rocambolesque. Mmh. L'étude de sa dépouille est absolument extraordinaire.
Donc là, il faut décrire, c'est un homme qu'on trouve
dans un glacier.
Dans un glacier.
Alors, ce sont deux randonneurs qui ont trouvé ce corps et dans un premier temps, personne n'a imaginé, évidemment, que c'était un homme qui pouvait dater de plusieurs milliers d'années.
Alors, on appelle la police, oui.
On appelle la police. Mmh. Ils sont d'abord redescendus au refuge, ils ont appelé et puis effectivement, ça a fini par déclencher la gendarmerie, des gens qui sont venus sur place et qui ont donc abîmé le site et les données, mais ils pouvaient pas faire autrement. Et puis petit à petit, il y a eu une bataille pour savoir effectivement si on était à la frontière autrichienne, si on était plutôt du côté de l'Autriche ou plutôt du côté de l'Italie. Finalement, Otzi était en Italie, disent les cartes.
C'est pour ça qu'on va le voir
à Bolzano. Absolument. Dans une vitrine avec une muséographie sur laquelle il y aurait probablement à dire qui fait peur aux enfants et qui apporte peut-être pas tant que ça à la connaissance, mais qui rapporte par contre beaucoup de visiteurs.
Il est effrayant,
oui. Ben oui, parce qu'en fait, il est à la fois conservé et il est quand même abîmé. Et puis, il y a eu de nombreuses études, puisque les méthodes justement de laboratoire permettent des choses absolument extraordinaires. Et donc, on a son dernier menu, on a son état de santé qui est absolument déplorable, oui. Le pauvre. Il avait vraiment toutes les pathologies les plus terribles. Et puis il a une flèche dans le dos et il en avait avec lui. Et puis il avait une hache en cuivre. Et donc il y a au moins quatre scénarios pour savoir si
c'est un fugitif,
un attaquant. Il y a des traces de sang de 400 différents sur ses affaires. Enfin voilà. Donc on pourrait effectivement écrire un vrai roman policier là pour le coup.
Avec oui, là c'est parti. Là, effectivement, c'est parti. L'imagination
court au galop. Absolument. Oui. Absolument.
Sur les dépôts métalliques, c'est évidemment plus difficile, plus compliqué. Pour parler de guerre, hein, l'URF, vous avez des équipements, vous avez effectivement des ossements, vous avez des lésions, vous avez des blessés et des morts, mais vous avez assez peu de champs de bataille.
Oui, on a, pour l'instant, il y a un champ de bataille qui est en Allemagne, dont les études ne sont pas terminées, qui est à Tolens. Mmh. Où effectivement là il y en a des centaines d'individus, mais c'est assez normal et logique d'une certaine manière, puisque si on se place à la fin du deuxième millénaire ou au moment de la naissance de l'épée, il s'est passé depuis la naissance de l'épée 3500 ans tout de même, les hommes ont continué à vivre et à habiter en Europe, et ce de manière de plus en plus intense en plus. Et donc, les hommes nouveaux ont chassé les anciens. Les champs de bataille ont été recouverts de nouveaux lieux de vie, et probablement un certain nombre d'entre eux ont disparu. Parfois, comme là, à Tolens, on en trouve un. On en cherche, on en trouvera sans doute d'autres, parce que c'est ça aussi qui est magique dans l'archéologie, c'est que on pense que c'est pas possible, on pense que ça n'existe pas, on a fait une théorie, et puis tout à coup une découverte, vous dites, ah si, peut-être quand même que là on a toute une documentation, et ça permet de renouveler complètement la vision que l'on a d'un phénomène. Donc il est possible qu'on en trouve, je l'espère en tout cas, d'autres champs de bataille.
Champs de bataille où se livraient des guerres, dites-vous, parce que votre livre « Par les armes, le jour où l'homme inventa la guerre » paru chez Belin est aussi une réflexion profonde sur ce que c'est qu'une guerre et donc ce que c'est qu'un État. Et donc là, ça pose aussi une question qui est quand même embarrassante du point de vue de l'histoire des pouvoirs en longue durée, c'est qu'est-ce qui nous autorise à parler d'État à l'âge du bronze. Là, on est quand même, effectivement, sur une reconstruction très hypothétique. Mais vous le défendez, pourtant.
À partir du moment où les données archéologiques vous invitent à aller dans un sens, par tout un travail d'analyse et de déduction, il y a un moment donné où vous dites, oui, je dois oser l'hypothèse. Je dois évidemment faire la démonstration, mais je dois oser l'hypothèse. En l'occurrence, La production de ce type d'armes demande à une concentration, une démultiplication et une concentration de savoir-faire et d'organisation à toute l'échelle européenne. Pour arriver à fabriquer cet armement, il faut une matière première qui existe en quantité relativement réduite, de matières premières qui ne se trouvent pas dans les mêmes endroits. Donc ça veut dire qu'il se met en place tout un réseau à l'échelle de l'Europe d'approvisionnement, de circulation pour que ces armes puissent être possibles. Ensuite, il faut un savoir-faire artisanal absolument extraordinaire pour pouvoir les fabriquer, pour pouvoir équiper justement ces hommes correctement avec les bonnes armes qui vont pas casser au milieu du combat, ce qui est quand même mieux. Donc ça veut dire que les sociétés portent d'une certaine manière, à la fois économiquement, dans le savoir-faire, et puis il faut savoir combattre. Ça veut dire que il faut que les hommes puissent le faire. Donc ça suppose, si ça existe, et en quantité aussi importante, que derrière, il y a effectivement une organisation, et que cette organisation de la société dédie toute une partie de son temps et de sa, de son économie, finalement, à cela, à cette réalité qui est la guerre.
Et ça, c'est la modernité. D'une certaine manière, c'est tristement la modernité.
Oui, tout à fait, Patrick Bouchon, c'est tristement la modernité.
C'est intéressant d'ailleurs ce livre parce que c'est un livre qui est plein de réticences sur le sujet lui-même dont vous ne cessez de dire que c'est pas votre genre. C'est pas votre genre. D'ailleurs, vous avez commencé par les fibules et on termine par les épées. Il y avait peut-être d'ailleurs aussi simplement ce qu'on appelle aujourd'hui un biais de genre. Après tout, ce n'est pas qu'aux garçons de faire l'histoire de la guerre.
Alors, je ne sais pas si je l'ai pris comme quelque chose qui est lié au genre. Je crois surtout que c'est la violence qui me répugnait à titre tout simplement humain. Et j'ai jamais imaginé que j'allais travailler sur la violence. Et on sait combien ça peut être difficile. On connaît d'autres historiens qui ont été confrontés directement à des conflits plus récents et pour lesquels c'est difficile cette mise en contact avec la violence et avec la guerre. Alors, c'est peut-être moins douloureux. Je pense au Rwanda que je mentionne d'ailleurs hein, dans l'introduction du livre, où là on est dans du très très contemporain. On en est choses extrêmement difficiles, mais l'archéologie permet, avec la sédimentation, avec le temps, avec l'anonymat des individus que l'on étudie, que ce soit moins difficile et moins douloureux. En même temps, tout historien choisit aussi un petit peu ses sujets. Par goût, par appétence pour un sujet plutôt que pour un autre. Et c'est vrai que je n'ai jamais imaginé volontairement que j'allais aller vers ça.
Mais un jour, vous avez imaginé un homme dans la cuirasse.
Un jour, j'ai imaginé un homme dans la cuirasse parce que je pense que l'historien et le chercheur doit prendre ses responsabilités d'une certaine manière. Quand la documentation lui dit quelque chose, il peut pas rester aveugle et sourd à ce que la documentation lui dit. Donc, il faut qu'il l'affronte et il faut qu'il en fasse de la connaissance.
Merci Anne Lehurf.
Merci Patrick Boucheron.
Matière à penser, Anne Lehurf, Manu Couturier, Sandrine Chaperon, Joséphine Lempreya, Catherine Donné, Anne-Pascale Desvignes, Patrick Boucheron. Demain, c'est la dernière de Matière à penser consacrée à préhistoire et modernité et j'aurai le plaisir d'accueillir à ce micro Maria Stavrinaki. Bonne soirée.